OpenAI, c'est l'entreprise dont absolument toute la planète tech parle en ce moment.
Le sujet dont tout le monde parle actuellement, ChatGPT.
Il y a énormément de domaines où les performances des programmes d'intelligence artificielle sont supérieures à ceux des hommes.
Celles dont on parle aujourd'hui, ce sont les intelligences artificielles dites génératives, c'est-à-dire qui génèrent du contenu.
En dehors du droit du travail, en dehors de la fiscalité, en dehors du respect du droit sur les données, qui sont quand même le cœur de tout ça.
D'ailleurs, il y en a qui sont capables de nous sauver la vie via des intelligences artificielles liées au médical, etc.
Voilà plusieurs dizaines d'années maintenant qu'on nous promet des changements majeurs dans nos vies.
On commence par Microsoft qui confirme un investissement colossal dans l'intelligence artificielle.
ChatGPT, 7 lettres est peut-être l'aube d'une révolution.
Grâce à l'IA, il y a 26 ans, la victoire pour la première fois d'un ordinateur. Deep Blue face à un champion d'échecs, Garry Kasparov, était une étape symbolique.
Grâce à l'intelligence artificielle, on peut produire des images très très bizarres en un temps record.
Il est vraiment urgent de mettre de l'éthique dans tout ça.
Car l'intelligence artificielle aide déjà aujourd'hui nos médecins à soigner.
Alors, ça vous fait peur, l'intelligence artificielle ?
L'intelligence artificielle, ces termes créés dans les années 50, sont plus ou moins connus de tous aujourd'hui. Dans le cinéma, la musique, la justice, la sécurité, la machine qui remplacera l'être humain est un fantasme qui ne date pas d'hier. Depuis Alan Turing, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique, jusqu'au fameux ChatGPT, les innovations semblent de plus en plus rattraper notre imaginaire. Mais ces innovations qui permettent d'aider les êtres humains nourrissent aussi certaines craintes. Un mot existe, la technophobie. Une IA qui remplacerait les êtres humains, la vision fait frissonner. Par contre, il y a un domaine dans lequel les innovations semblent être plus épargnées par le feu des critiques, c'est celui de la santé. Et pourtant, c'est un domaine où l'IA est déjà très présente. Alors est-ce que quand c'est pour vous soigner, vous y allez les yeux fermés ? Aujourd'hui, les algorithmes se sont glissés dans plein de domaines. On va en explorer les concepts et les technologies mises en œuvre, mais aussi les doutes et les fantasmes qui se cachent derrière ces programmes informatiques qui peuvent nous sauver la vie comme la détruire. Bienvenue dans Diagnostic. Contrairement aux idées reçues, l'idée de rendre une machine intelligente date de milliers d'années. On pouvait déjà observer des représentations de robots combattants dans des illustrations provenant de la Grèce antique. Plus proche de nous, c'est le cinéma qui s'est immiscé dans notre imaginaire en représentant des robots intelligents dès les années 20, avec des films muets comme Metropolis, dont on entend la bande originale. Ce fut l'un des premiers films de science-fiction à mettre en scène des robots dotés d'un libre arbitre. Plus tard, Le Magicien d'Oz, 2001, L'Odyssée de l'espace ou encore Star Wars finiront par façonner notre vision des machines, comme le film Les Dents de la Mer a su le faire pour les requins. Mais le terme intelligence artificielle, lui, ne vient pas du 7e art. Allons poser nos questions à une spécialiste.
Je m'appelle Laurence Zérix, j'ai été journaliste professionnelle pendant 15 ans avant d'entamer une nouvelle carrière académique. J'ai mon doctorat porté sur l'automatisation de la production d'informations, soit les premières applications d'intelligence artificielle dans l'information. Je suis aussi développeuse, programmeuse, donc j'utilise aussi ces technologies de temps en temps, y compris dans la recherche. Et je travaille actuellement à l'université de Bergen en Norvège, où ma recherche porte plus particulièrement sur les outils de fact-checking s'appuyant sur l'IA.
Alors tout d'abord, d'où vient ce nom ?
L'intelligence artificielle, c'est un terme qui est né dans les années 50, au tout début des développements de la discipline. Et c'est pas parce qu'on appelle ça intelligence qu'ils sont intelligents au sens cognitif humain, c'est-à-dire que les machines ne pensent pas, elles n'ont pas d'émotions, elles n'ont pas les réflexes que nous pouvons avoir en tant qu'être humain, elles ne sont pas contentes, elles ne peuvent pas aimer, elles n'ont pas toute cette panoplie de sentiments qui peut parfois nous bouleverser.
Pas de sentiments, mais alors, Le terme choisi ne serait-il pas quelque peu galvaudé ?
L'intelligence artificielle, c'est certainement un terme qui est utilisé de manière très commerciale. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait vendre. Pourquoi on parle d'intelligence fondamentalement ? C'est parce que ce sont des systèmes qui sont capables d'imiter l'humain dans ses prises de décision.
Mais alors, si on est encore loin d'une intelligence capable de réfléchir comme un humain, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle ?
Alors, ça fait référence à une foultitude de techniques et une foultitude d'algorithmes pour utiliser dans différents domaines et pour différentes tâches. C'est un peu un mot valise qui veut tout et qui veut rien dire à la fois. Alors, plus techniquement, on peut parler de machine learning, qui est l'apprentissage par la machine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec du machine learning ? Eh bien, on va essayer de faire des prédictions. Par exemple, compte tenu des données que j'ai des clients dans une banque, de savoir s'ils sont célibataires, avec des enfants, de savoir le revenu, s'ils sont propriétaires, locataires, s'ils ont déjà des emprunts pour une voiture, pour une maison, etc. Compte tenu de toutes ces informations, le système va me dire est-ce que si cette personne va être solvable et si je peux lui accorder un prêt.
Et ça, ça existe déjà. Mais j'ai comme l'impression que l'IA divise énormément.
Alors, on peut voir ça, on peut voir le verre à moitié plein, hein, en se disant que ce sont d'un côté des formidables assistants, des outils vraiment qui aident à gagner un temps précieux, qui permettent aussi de détecter des patterns dans des volumes de données gigantesques. Et humainement, on pourrait le faire, mais ça prendrait des années. Et c'est la puissance de calcul des ordinateurs aussi qui permet ces évolutions. On n'a jamais eu des machines aussi puissantes aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, parce que ces technologies, enfin ces techniques sont étudiées et sont développées depuis vraiment des années. C'est ce qui rend ces développements beaucoup plus rapides, on va dire, aujourd'hui. Mais si on regarde le verre à moitié vide, il y a toujours eu l'angoisse, comme à chaque révolution industrielle, que l'automatisation, tout ce qui est automatisé, remplace l'être humain dans certaines tâches. Et c'est vrai que ça s'est produit, si on se rappelle du taylorisme et du fordisme, des usines à la chaîne, où on a automatisé les chaînes de production. Mais il faut se dire que, en même temps, ça transforme le travail. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours un humain quelque part dans la chaîne. Il faut aussi se dire qu'il y a toujours un humain derrière qui va concevoir le système, qui va développer le système, qui va maintenir le système. Et toujours un humain qui va contrôler aussi le résultat du système. Et c'est très important dans certains domaines. En journalisme, par exemple, on ne peut pas imaginer qu'un journaliste humain ne contrôle pas, ne vérifie pas ce qui se passe derrière. Je pense que dans le domaine médical, c'est pareil. Quand on pose un diagnostic, quand un diagnostic automatisé, il faut au moins une vérification humaine.
Mais alors, que dire des pertes d'emploi ?
Alors, il y a eu effectivement des pertes d'emploi, et on ne peut pas le cacher. La grande angoisse de cette quatrième révolution industrielle, c'est que ce ne sont plus seulement les ouvriers, les travailleurs en col bleu qui sont ciblés, mais aussi les intellectuels, les travailleurs en col blanc. Il y a des discours technocentristes qui sont parfois aussi très effrayants. Non seulement on va tout sauver grâce à la technologie, mais on va créer des super IA qui vont tout faire. Et l'humain n'aura plus rien à faire. Alors quand on pose la question à ces gens, mais qu'est-ce qu'ils feront ? Qu'est-ce qui va leur rester aux humains ? Ils disent, mais c'est bien, ils auront le temps pour faire du théâtre, pour danser, pour chanter, pour se reposer, pour voyager. Sauf que dans un système capitaliste, c'est pas comme ça que ça marche. Si j'ai pas d'argent, eh bien, je vais pas vivre de l'air du temps parce que je chante ou que je fais du théâtre. Et pour voyager, j'ai besoin aussi d'argent, même si je fais du vélo et que j'essaye de faire du survivalisme. Donc il y a quand même des discours qui ne tiennent pas compte en fait des défis sociaux qui se trouvent derrière. Et donc c'est aussi ça, cet univers des technologies numériques, c'est à la fois d'être un vecteur de monde qui serait radieux, meilleur, ou de monde qui serait pire. C'est le 1984 de George Orwell. Et à certains niveaux, on pourrait imaginer qu'on y est. D'extrêmes sources d'inquiétude, par exemple, face à toutes les technologies de surveillance.
Évidemment, ça ne va pas rassurer les plus frileux d'entre nous. Regardez Black Mirror, si ce n'est pas déjà fait. L'automatisation de tâches fastidieuses poursuit son chemin depuis la première ère industrielle. C'est aussi depuis ce moment que l'être humain a commencé à craindre qu'on leur pique leur job. Dans un certain sens, l'histoire leur a donné raison. Concernant l'IA, elle répond malgré tout à des enjeux importants et dans différents domaines. Pourtant, dans l'imaginaire de certaines personnes, l'IA est loin d'être la révolution tant attendue. Il y a quatre craintes majeures. Tout d'abord, celle de l'éthique. Que fait-on de nos données privées? On continue à les partager, même si elles sont sensibles, comme nos données de santé? Pas sûr que ça vous plaise. Il y a aussi la crainte d'une déshumanisation de notre société, où tout serait remplacé par des robots. Plus de guichets de banque, plus d'humains qui répondraient au téléphone. Ça vous dit quelque chose? C'est normal. Enfin, celle qui vient du cinéma. L'apparition des robots humanoïdes qui finiraient par se retourner contre ses créateurs afin d'exterminer la race humaine. Je vous rassure, cette fin imaginaire apocalyptique ne risque pas d'arriver. Justement, je suis allé sur un site qui propose de générer des musiques grâce à une intelligence artificielle. Je vous laisse écouter. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'y est pas encore. Ce qui est sûr, c'est que certaines peurs ne viennent pas de nulle part. Les craintes sont donc parfois légitimes et parfois pas. Mais il est bon de rappeler que les machines ne sont pas capables de penser par elles-mêmes et devront toujours être supervisées par un être humain. Pour la crainte du chômage de masse, il y a eu des transformations dans le monde du travail, c'est vrai. Et si certains métiers sont voués à disparaître, d'autres se créent pour répondre aux besoins actuels. Concernant la déshumanisation de la société, rassurez-vous, l'être humain est et restera par nature un être sociable. Et ça, guichet fermé ou pas, ça ne changera pas. Enfin, concernant l'éthique, c'est le point le plus important. Beaucoup de choses restent à faire, même si des lois sont en vigueur pour vous protéger numériquement. C'est ce qu'on va voir avec la deuxième spécialiste. Le RGPD, ou Règlement général sur la protection des données, a posé les bases d'une législation commune concernant vos données personnelles. Adopté en 2016 par le Parlement européen et le Conseil, il permet d'avoir un cadre harmonisé de l'ensemble des règles relatives à la protection des données et est directement applicable par tous les États membres de l'Union européenne. Et il fallait bien ça, parce que vous le savez, Internet n'a pas de frontières et vos données peuvent voyager très vite et très loin en un claquement de doigts. C'est pourquoi ce règlement repose sur des principes clés comme l'obligation d'une entreprise à notifier une fuite de données ou encore à responsabiliser les entreprises qui peuvent être soumises à d'importantes sanctions financières. Vos données, ce sont aussi celles que vous transmettez à votre médecin ou à l'hôpital. Là, on parle de données sensibles qui ne peuvent pas arriver dans les disques durs d'une entreprise privée comme cela peut se faire aux États-Unis par exemple. En Europe, des chercheuses et chercheurs s'appliquent à vous protéger numériquement.
My name is Sophie Mezaros and I work at IMEC Smith VUB.
Je m'appelle Sophie Mezaros et je travaille à l'IMEC Smith VUB. Études en médias, innovation et technologie liées au Centre interuniversitaire de microélectronique, ou IMEC en abrégé. C'est un centre de recherche et de développement.
IMEC is a research and development facility.
Dans mon groupe, nous sommes des spécialistes des sciences sociales qui travaillons à rendre la technologie à l'épreuve de la société. Nous avons différentes unités qui se concentrent sur différents aspects, comme la santé numérique, l'inclusion numérique, l'innovation dans les médias, etc. Je fais partie de l'unité santé numérique et travail. Notre problématique ici revient à respecter les individus et à ne pas les exploiter à des fins commerciales, ce qui serait le cas si de grandes entreprises comme Google Google ou Apple disposaient de nos données de santé.
It's true that they have a big outreach and therefore they may be more efficient in terms of processing data.
Alors d'un côté, ils ont une grande portée et donc ils peuvent être plus efficaces, mais leur but est de faire de l'argent et non de sauvegarder les valeurs européennes comme la vie privée. Je travaille sur des pratiques de partage de données dignes de confiance et l'une des priorités est l'utilisateur final et non le profit. Comme je l'ai dit, l'objectif de ces entreprises est commercial et non éthique. Elles ne sont donc pas dignes de confiance pour les hôpitaux.
Donc si je comprends bien, votre but est de sécuriser les données afin qu'elles puissent être utilisées par des ingénieurs qui pourront, grâce à elles, créer des IA dans le domaine de la santé. Le tout sécurisé. Mais comment arriver à un tel résultat ?
So we need accountability, traceability, transparency and efficiency in terms of who accesses the data, when and for what purpose.
Ce qu'il y a, c'est que nous avons besoin de responsabilité, de traçabilité, de transparence et d'efficacité pour savoir qui accède aux données, quand et dans quel but. C'est ce à quoi nous travaillons dans le cadre de mes recherches. Nous nous concentrons sur la confiance dans le partage des données, dans des espaces virtuels de données dans le monde de la santé. Les espaces de données offriraient la possibilité de partager des données en toute sécurité. Actuellement, les hôpitaux sont confrontés à des problèmes de confiance lors du partage de données. Les risques sont très divers, mais au final, tout se résume à ne pas faire confiance au partage de données pour des raisons juridiques, économiques et techniques. La priorité est de protéger la vie privée des individus et que celle-ci ne soit pas exploitée commercialement. Des idées déjà introduites par le RGPD. Actuellement, nous pouvons utiliser des accords de partage de données, mais ces accords sont administrativement lourds. De plus, vous ne pouvez ni superviser leur utilisation, ni savoir à quel fin ils seront utilisés. Nous devons donc créer des processus qui empêcheraient l'utilisation abusive de ces données et en même temps éviteraient de passer à côté d'opportunités d'utilisation des données. Et il serait très dangereux que cela soit fait par des entreprises privées car leur priorité n'est pas d'être éthique. En Belgique, c'est d'autant plus important que le secteur de la santé est très fragmenté. C'est un véritable défi pour la recherche.
Je vous avoue, c'est plutôt rassurant de savoir que des scientifiques travaillent sur le sujet sans penser au profit. Mais les lois et les banques de données sécurisées ne permettront pas aux gens de comprendre l'inconnu. Car c'est bien ça qui fait peur, l'inconnu. Pour cela, il est nécessaire d'avoir des bases en éducation numérique. Mais avant de passer à la dernière partie, je me dois d'être franc avec vous. Je vous ai un peu menti concernant la musique. En fait, j'ai trouvé d'autres musiques générées par une intelligence artificielle, mais cette fois-ci, ce n'était pas moi aux manettes. Alors voilà ce que ça donne quand Benoît Carré, alias Skige, crée de la musique grâce à l'IA. Something that changes everything in a second. Something that makes me feel alive, like for the first time. Something that suddenly will open my eyes wide. But everything happens in an order. C'est quand même plus plaisant, n'est-ce pas? Allez, il est temps de passer au dernier chapitre. Dans une étude Ipsos de 2019, commandée par le service public fédéral et réalisée par AE for Belgium, des chercheurs ont interrogé un échantillon de personnes sur la perception qu'ils ont concernant l'intelligence artificielle. Le SPF Économie voulait répondre à plusieurs questions de recherche concernant les connaissances des Belges sur l'IA, l'impact sur la vie quotidienne et sur le travail, mais aussi le rôle que doit avoir le gouvernement concernant l'implémentation de l'IA en Belgique. Si les profils sont assez hétérogènes, le constat, lui, est quelque peu ambivalent. À la question « L'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer notre société », seuls 12% des Belges ne sont pas du tout d'accord. L'IA est donc perçue comme un développement positif et pourrait entraîner des améliorations. Par contre, quand il s'agit des conséquences que l'IA pourrait avoir sur notre vie, 85% des Belges sont inquiets, et plus particulièrement en ce qui concerne l'utilisation des données personnelles et l'utilisation du bon sens humain. Suite à ce constat, je suis allé poser mes questions à Giovanni Briganti. Il est psychiatre et professeur et a dirigé la partie soins de santé de l'étude.
Si on retrace un petit peu l'histoire, en 2020, le futur Premier ministre Alexander De Croo, à l'époque, il avait d'autres charges, crée un écosystème fédéral pour l'intelligence artificielle appelé AI for Belgium. Dans cet écosystème, dans lequel interviennent des citoyens, des académiques, des politiques, des décideurs, donc des industriels et d'autres catégories de la société civile, en fait, le but était de rassembler les efforts pour mieux avancer en matière d'intelligence artificielle. Un des groupes de travail qu'on m'a demandé de diriger s'appelait et s'appelle toujours AI for Health, dans lequel on tacle en fait les besoins spécifiques de l'IA en santé.
Et donc suite à cela, vous avez ouvert une certification spécifique à l'intelligence artificielle en médecine, c'est bien ça ?
Donc c'est un certificat que nous avons lancé avec l'Université de Mons et l'Université libre de Bruxelles, où Karim Zouaoui Boudjeltia et moi-même sommes tous les deux académiques à la fois en faculté de médecine à l'ULB et à l'UMons, pour répondre à un besoin qui est actuel et qui est celui de l'éducation à l'intelligence artificielle et la médecine digitale, qui sont des domaines qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le domaine des soins de santé.
Il y a donc une demande d'éducation, mais quelles sont les applications de l'IA dans le domaine ?
Alors, en général, l'intelligence artificielle, elle aide dans plusieurs secteurs des soins de santé. J'aime bien diviser les applications de l'IA en deux domaines, deux macro-domaines. Le domaine à la fois clinique et un domaine paraclinique. Alors, j'ai défini le domaine clinique comme un domaine où l'IA va venir intervenir dans le secteur de soins de santé entre les soins qui sont prodigués par le médecin au patient. Donc ça, c'est un premier objectif. Et puis, les soins paracliniques, c'est quoi ? C'est en fait l'utilisation de l'IA dans des secteurs où il n'y a pas d'acte de soins, mais où il y a un besoin d'automatisation qui vient soutenir le professionnel de la santé. Par exemple, l'administratif. Pour revenir aux exemples d'intelligence artificielle clinique, on peut utiliser ces technologies pour notamment pour prédire, voire prévenir les maladies. On parle de prédiction lorsqu'il s'agit de prédire un événement quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours avant que cela se passe, et de prévention lorsqu'on parle de programmes personnalisés qui préviennent les maladies les plus populaires avant qu'elles puissent se présenter, donc notamment les maladies cardiovasculaires.
Pourtant, on ne peut toujours pas utiliser l'IA dans les soins de routine, c'est ça ?
Voilà, donc il faut se remettre dans le contexte qu'en Belgique, utiliser l'IA pour des soins de routine n'est pas encore permis, ou en tout cas prévu par l'ordre des médecins. Il est possible d'utiliser des intelligences artificielles dans le cadre de recherches cliniques. Et donc, on peut utiliser des logiciels de type IA uniquement s'il y a un projet de recherche clinique qui vient justifier son utilisation.
Pour en revenir à l'étude, comment expliquer que la population soit plutôt inquiète quant aux conséquences de l'IA ?
Alors, ceci est dû à plusieurs choses. Premièrement, dans la presse, nous retrouvons beaucoup trop d'échos négatifs qui sont dus à de vraies choses qui se passent réellement dans le domaine de l'intelligence artificielle et qu'on aimerait ne pas observer. Donc, ceci est dû que les systèmes d'intelligence artificielle sont développés tout de même dans un cadre qui reste celui du capitalisme et qui, malheureusement, est prédisposé à développer des dérives que l'on voudrait ne pas observer. Donc ça, c'est un premier aspect dont il faut tenir compte. Néanmoins, la population et les citoyens belges se rendent compte que l'IA est une évolution très positive dans la vie de la société. Et donc ceci permet que finalement les perceptions soient un petit peu ambivalentes par rapport à la population, où à la fois on remarque les choses incroyables que l'IA peut faire et à la fois on a une crainte de l'utilisation à mauvais escient des données au dépit de la privacité, de la sécurité des données personnelles.
Mais donc la crainte des Belges est légitime concernant nos données. Mais quels sont les bénéfices à l'utilisation de l'IA? En gros, qu'est-ce que ça nous apporte?
Pour la santé, il faut se rendre compte qu'il s'agit tout de même d'un domaine qu'on appelle à haut risque pour l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que les données sont assez sensibles. Cependant, les bénéfices que l'IA peut amener en santé sont tellement multiples qu'effectivement, c'est un domaine où l'utilisation des algorithmes se fait à bon escient. Dans cela, je veux mettre en évidence cinq piliers de ces effets positifs. Le premier, c'est qu'on peut quand même améliorer la qualité des soins qu'on offre aux patients, donc, et rendre donc, les citoyens en meilleure santé. Deuxièmement, on peut améliorer la performance des professionnels de la santé et en même temps améliorer leur qualité de vie au travail, ce qui va permettre de réduire notamment les burn-out du personnel soignant et permettre de garder une certaine compétitivité, une certaine force de travail médical et paramédical. Troisièmement, on peut quand même aider les institutions hospitalières et les institutions de soins en sens large, maisons de repos, cabinets de médecine générale, etc., afin qu'ils puissent mieux performer. Quatrièmement, on peut quand même utiliser l'IA pour améliorer la recherche clinique et formuler de nouvelles hypothèses de recherche clinique, ou découvrir de nouveaux médicaments, ou mieux comprendre les maladies. Donc ceci n'est pas donné et ça représente un très très gros avantage. Et dernièrement, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir les politiques publiques dans des cadres notamment de pandémie ou d'autres événements de santé publique. Donc ceci, c'est clairement le cas avec l'IA. Computer programs have evolved to such a high
level, you can no longer call them programs. Finalement, la peur de l'intelligence artificielle est compréhensible, surtout quand cela touche notre santé. On parle quand même de perte d'emploi et de vie privée, tout en sachant que nous ne sommes qu'aux prémices d'une ère robotisée. Surtout que si vous ne prenez pas le train en marche, vous risquez vite d'être largué, de ne plus rien comprendre et ainsi de suite. La spirale de la peur de l'inconnu reprend. D'un autre côté, les possibilités, les défis de notre civilisation sont tels qu'il semble difficile de se passer d'une telle opportunité. Quand on sait que le cancer pourrait devenir la première cause de décès en 2030 et que les IA améliorent la précision des diagnostics, des traitements et réduisent les erreurs médicales, pourquoi faire la fine bouche? Nous sommes seulement à l'heure de la réflexion dans le domaine, et si l'on veut éviter la dystopie promise, la connaissance en est la clé. Merci d'avoir écouté Diagnostic. Merci à Laurence Dirix, Sophie Messaros et Giovanni Briganti de m'avoir accordé du temps. Merci à Leslie Doumerc pour ses précieux conseils et Philippe Delchambre pour sa patience.